Et bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Zinzine et Radio BAM depuis les locaux marseillais de BAM. On est le samedi 30 janvier et c'est l'heure des informations. Donc on va commencer tout de suite avec Gaël et Jonas pour l'agenda puis les éphémérides. Et ensuite on reprendra avec du local.
D'accord, alors pour les éphémérides, quatre dates aujourd'hui, 30 janvier. Le 30 janvier 1865, aux États-Unis, le Congrès vote l'abolition de l'esclavage, officialisant la proclamation de l'émancipation des Noirs, qui a été faite par Abraham Lincoln le 22 septembre 1862. Le 30 janvier 1933, donc Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich par le président Paul von Hindenburg. Quelques années plus tard, le 30 janvier 1972, 13 civils sont abattus par l'armée britannique au cours d'une manifestation pacifique catholique à Londonderry, en Irlande du Nord, et c'est le fameux Bloody Sunday. Alors, plus local et pour prouver qu'en politique on n'oublie rien, le 30 janvier 2004, Alain Juppé, président du parti politique français l'UMP, devenu Les Républicains, est condamné par le tribunal de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis, entraînant son inéligibilité. Donc Alain, on t'oublie pas. On va passer maintenant à l'agenda et tout de suite Jonah a une date, Jonah que vous connaissez qui est dans l'émission Double Neuf sur Radio BAM.
Bonsoir. Ben oui, voilà, je passais par là, je passais voir les copains et vous me dites, vous faites l'agenda et moi je vous dis, mais il se passe quelque chose ce soir. Donc ce soir, ben, c'est à l'espace Julien que ça se passe à partir de 20h30. Donc une fois que l'émission se termine, vous coupez votre radio, vous prenez votre voiture, vous rallumez votre radio, vous restez sur Zinzine. Vous arrivez au festival des Massiliades qui a lieu notamment ce soir pour voir Smokey John the Kid, Who's the Racket, The Subs et Cumulus etc. En gros c'est hip-hop, c'est électro, c'est dansant et c'est à 18€, 4 concerts pour le prix d'un.
Yeah. Et donc le lendemain matin, si vous vous réveillez tôt, vous pouvez aller voir un film qui s'appelle Homeland Irak Année Zéro, en présence du réalisateur Abbas Fadel. Donc c'est un peu tôt le matin, c'est à 10h30 pour la première partie et à 15h pour la deuxième partie. Et c'est au Musée Moji 4 à l'auditorium Germaine Tillon. Donc c'est une fresque documentaire cinématographique sur la vie de ce réalisateur en Irak. Et c'est un film très très important, je crois, pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y aura donc le réalisateur et aussi Myriam Benran, qui est chercheur spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient. Donc c'est 5€ la séance, voilà. Et donc à 10h30 pour la première partie, la deuxième partie à 15h. Le lendemain, le lundi 1er février, après cette séance de cinéma, vous pourrez aller à la réunion de l'Assemblée de la Plaine à l'Aché des Coubas, place Paul Cézanne, c'est à 18h. Et là, on y parlera de la Plaine, du réaménagement de la Plaine. On va vous en parler tout à l'heure avec Thibaut. Ensuite, le lendemain, à Manosque, c'est le début des 29e éditions des rencontres cinématographiques de Manosque, qui vont durer jusqu'au dimanche 5 février. On saute, on fait un pas dans le temps. Jeudi 4 février, au cinéma Les Variétés, François Ruffin montre son film Merci Patron. Donc c'est une séance organisée par Attac, Le Ravi et CQFD. François Ruffin, vous le connaissez certainement, il est journaliste au Monde Diplomatique, c'est le rédacteur en chef du journal Fakir et c'est un ancien reporter de l'émission Là-bas si j'y suis sur France Inter. Feu Là-bas si j'y suis sur France Inter. Rapidement le synopsis du film, donc je vais le lire, mais pour Jocelyne et Serge Clour, rien ne va plus. Leur usine fabriquait des costumes Kenzo, et Kenzo c'est le groupe LVMH, à Poix du Nord, près de Valenciennes. Mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, et qui risque désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant, il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belges, d'une bonne sœur rouge et de la déléguée CGT, d'un ex-vendeur à la Samaritaine, il ira porter le cas Clour, donc c'est le nom de ce couple-là, à l'Assemblée Générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. Mais c'est David, frondeur, pourront-ils l'emporter contre Goliath millionnaire? Du suspense, de l'émotion et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés, picards, réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde et l'homme le plus riche de France? Donc ça c'est Merci Patron et je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est jeudi 4 février 2016 à Marseille au cinéma Les Variétés. Et c'est organisé donc par Attac, Le Ravi et CQFD. Enfin, vendredi 5 février, vous pourrez aller écouter Michel Peraldi qui fait une conférence qui s'intitule « Marseille, une sociologie à part ? Point d'interrogation ». Michel Peraldi, donc c'est à l'Alcazar, à l'auditorium au rez-de-chaussée. Michel Peraldi, anthropologue, il a travaillé notamment sur Marseille, sur les dynamiques de migration dans le bassin méditerranéen. Voilà. Donc c'en est fini pour l'agenda.
Voilà, on peut rappeler aussi que, vu qu'on est allé jusqu'à vendredi, que samedi prochain à 19h, il y a comme d'habitude les informations sur Zarzine et BAM. On écoute un petit peu de musique avant de passer aux informations locales.
Et le morceau sera joué, que vous allez entendre, c'est Smokey Joe and the Kid qui passe ce soir en concert. Ça va vous donner un avant-goût, vous allez voir, c'est un peu électro, c'est un peu hip-hop et surtout, c'est la fête. Dansez bien. That's right. A group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Yeah. Before they knew it was whizzing round the world, the world was ready for a new kind of music. Before they knew it was whizzing round the world. Yo, show me the
when I stepped in the scene, the West, everything seems so cool, the best. But everywhere I go, an asshole the wreck. So I gotta put him in his place, straight check. Watch out when I gotta go, cause when I gotta go, the going gets rough. So you better toughen up, grab it up, fuck her up. Cause it's the cream of the crop, that's why class winner. You lit up, kitty killer. I'm thicker, real figure. Hard hitter, shotgun spitter. When the shit hit the fan, nobody said a word. It was like kick, kick, bam. I cleared the air with sense. That's how I'm making money, man. Pay the rent. It's my turf now, bitch. Watch your step. Cause showtime's over. We trippin', rippin'. Got that juice that we sippin'. Lookin' damsels is dippin'. I talk no shit. Yes, man. Buck and the nurse, out in the universe. Straight made down the Milky Way, then the rabbit burst. Like a Stefani airborne dropped on Earth. Worst come to worst, my animals come first. A rapid, rapid from outer space just landed. Scoop out underground, tunnel expanded. All around the world, the planet can't stand it. Bam, super lamp, PM bandits. PM wheeling, PM bring manners. To the blink palace, leave the place in. Sweaty ground, bang yourself while we in. I got that feeling that we've been dreaming.
You know what I'm saying? We ain't taking no shit, man.
That's right.
Yo, Malo. What you gotta say?
Yo. I got a wall shine, sneak free slipping. Five muses off my flow, you'll be tripping. Ancient star, that's gloom and awakening. From the jungle to the polar frost, ice breaking. I'm so crazy, I'm illuminate your ass. Come on, baby, pants off, titties out for a test. Snicker boots, kick ass, PM crew. Check that ass, what you gonna do?
Voilà, donc nous sommes de retour pour les informations locales. Gaël nous disait qu'il allait nous parler de la plaine, donc Gaël...
Et la plaine, on vous en a parlé plusieurs fois dans ce journal, c'est un thème qui nous touche beaucoup. Il y a un projet de réhabilitation à la plaine, du marché, des infrastructures à côté, du parc pour enfants, des bars, et des luttes se mènent en ce moment depuis plusieurs mois déjà, puisqu'il y a eu des concertations publiques, on en avait parlé, des espèces de d'enfumage public où le projet était déjà acté globalement. Et là, on a des nouvelles que Thibaut va nous parler de ça, puisqu'il était sur place à la plaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et qu'est-ce que t'as vu, toi ?
Eh bien, du coup, il semblerait que cette semaine, à la plaine, les travaux aient commencé à se lancer. Du coup, voilà, trois fois cette semaine, des équipes d'ouvriers avec des foreuses ont été... vu sur la plaine, enfin, du coup, nous, voilà, très clairement, deux de ces trois fois-là, moi, j'étais là avec des potes.
C'était qui ces équipes? Elles sont venues, il y avait un nom d'une entreprise, et elles travaillaient pour qui?
Et non, il n'y avait pas de nom d'entreprise, du coup, mais ils avaient l'air d'être assez préparés, de savoir qu'ils arrivaient en terrain sensible, un peu comme ça, et genre, ils étaient pas, enfin, ça avait l'air tout calculé, du coup, il n'y avait pas de nom d'entreprise, et du coup, plusieurs fois, je suis allé parler avec eux, du coup, deux des fois où ils sont intervenus, où du coup ils sont arrivés pour faire des trous pour tester les sols.
Pourquoi ils font des trous? Parce qu'il y a du pétrole sous la plaine, ou ils cherchent quelque chose?
Ils cherchent un gisement. Ouais, non, ils disent que eux ils disent qu'ils savent pas pourquoi ils sont là, ce qui est sans doute vrai, quoi, du coup. Et du coup, eux ils arrivent, ils testent les sols, ils disent que aussi bien ça peut être pour refaire les immeubles, parce qu'à la plaine les sols tremblent, c'est bien connu, voilà. Bon, après, d'accord, personne n'est dupe en ce moment sur des travaux qui auraient lieu à la plaine.
Ça reste clairement pour préparer les travaux sans demander l'avis de la population.
Voilà, c'est ça. Très
et
clair.
Quelle a été la réaction des gens qui étaient là, qui ont vu les travailleurs à l'œuvre?
Du coup, la réaction, on allait leur parler directement, c'est très clair. On leur a dit, voilà, nous on est contre ce projet de réaménagement pour tout un tas de raisons, parce qu'on se sent directement attaqué par ce projet-là. Du coup, là, quand vous allez déplacer la machine, vous allez aller faire un autre trou. Nous, on va vous empêcher de le faire, mais voilà, peut-être que aussi bien, c'est cool pour vous, pour avoir votre après-midi. Du coup, ça avait l'air de les enthousiasmer un peu. C'était, du coup, si on peut avoir notre après-midi et tout, peut-être
on peut réussir. Clairement, ils n'ont pas pu forer.
Et du coup, en fait, ça s'est passé. La première fois, ils étaient en train de faire un trou en face de la poste. Du coup, nous, on arrive, on va se mettre, comme ils avaient déjà fait tout leur traçage au sol, sur le trou d'après. Et là, du coup, c'était genre à 2h de l'après, mais ils commençaient à nous dire... en fait, c'est bon, on a fini la journée, on part. Du coup, on fait, bizarre, on pensait qu'ils avaient vraiment fini leur journée et qu'ils partaient, quoi. Sauf qu'on a capté que 2 jours après, ils sont revenus. Bon, manque de bol, nous, on était encore sur la plaine par hasard, du coup, on les capte. Bon, on capte qu'il y a encore l'autre tracé d'à côté. Du coup, on retourne se poser sur le tracé, exactement les deux mêmes ouvriers. Du coup, voilà, c'était clair, un échange... presque sympathique avec eux. Et du coup, on va se poser sur le point à forer qui devait forer. Et là, du coup, ils nous disent clairement qu'ils ont appelé leur patron et qu'ils leur disent de partir et qu'ils reviendront plus tard à 9h du mat, vu qu'apparemment, on a l'air d'être des gens qui commençant à passer du temps sur la plaine en début d'après-midi. Et du coup, ils ont clairement, pas envie d'appeler la police, pas envie. Nous, on pensait vraiment que ça allait être la réaction de base. Tu te dis, t'empêches des travaux qui sont prévus d'être faits. Tu te dis, au moins, t'as la police qui va arriver, qui va te dire, veuillez partir. Non, là, il y a clairement l'envie que ça fasse pas de bruit, que ça n'en parle pas, que ça fasse pas d'agitation. Du coup, ils sont partis, apparemment, ils sont revenus vendredi, du coup, matin. Là, on n'était pas là, et je sais pas s'il y a des gens qui étaient là, je me suis pas encore bien renseigné, mais là, ils auraient pu finir, du coup, de tester un peu les sols. Mais après, du coup, voilà, c'est un départ aussi bien dans les chantiers, que c'est quelque chose qui est nouveau, du coup, aussi que de commencer à s'organiser face à ça. Du coup, il y a aussi des réactions qui commencent à se trouver, à se mettre en place face à eux.
Et notamment, il y avait un appel à être vigilant et aux habitantes, usagers de la plaine, de prévenir, de s'organiser à chaque fois qu'on verrait du coup les services commencer à faire les travaux, s'appeler et à venir et à foutre un peu le bordel, en fait.
Il y a sans doute d'ailleurs des numéros de téléphone qui vont commencer à circuler, à être affichés dans les bars, comme ça, un système de téléphone d'urgence qui va commencer à être mis en place pour pouvoir être un peu réactif et se tenir au courant, parce que c'est...
Et donc, si vous voulez en savoir plus et de vive voix, venez le lundi, donc ce lundi-là, à l'Atché des Coubas, à l'Assemblée de la Plaine, et on va discuter de ça. Voilà, clairement.
Ouais.
Ce qui nous amène...
Puisqu'on est dans les chantiers qui démarrent, il y a un autre chantier qui est en train de démarrer. On en avait déjà parlé aussi. Ça se situe à Noailles, ce qu'on appelle l'îlot des Feuillants, qui est donc tout en bas de Noailles. Et donc la Soleam avait, conjointement avec la mairie, un projet pour créer une grande brasserie et un hôtel 3 étoiles en plein Noailles. Pour ceux qui connaissent le quartier, ça colle pas forcément avec le quartier. Il y aura forcément un contraste. Et en décembre, les derniers occupants ont vidé les lieux suite à relogement. Donc l'immeuble était vide et du coup les travaux commenceront a priori au début du mois de février. Ça devait commencer en janvier, mais ça n'a pas pu démarrer encore. J'ai vu personne à l'œuvre. Mais dans le journal La Provence, on annonçait le début des travaux pour cette fin du mois.
Et on va continuer dans des informations toujours très locales. On est allé à la Plaine, on est allé à Noailles et maintenant on va descendre rue de la République. Et rue de la République, vous vous rappelez, c'est des luttes, c'est un combat contre des expulsions locatives qui ont débuté en 2004. On a fait un petit entretien avec David d'un centre-ville pour tous qui va raconter ce qui s'est passé il y a une semaine où ils ont trouvé porte close. Ils devaient présenter leur rapport sur les 11 années de la rue de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les évolutions de ce projet-là? Et ils ont trouvé porte close de l'association qui les accueillait. Et donc, on va embrayer tout de suite sur l'entretien qu'il explique. Voilà.
Le 23 janvier 2016 à Marseille. L'association Un centre-ville pour tous organisait une rencontre avec des habitants pour évoquer l'enquête qu'elle a réalisée. Une enquête qui revient, 11 années après, sur les réhabilitations de la rue de la République. On s'en souvient encore, des travaux, les expulsions, un fonds de pension texan qui spécule, une mairie qui s'en remet au privé, une crise boursière en 2008 qui gèle quelque peu le processus, et puis des luttes contre les expulsions. Bref, le rapport d'un centre-ville pour tous revenait sur l'état actuel de la réhabilitation, sur ce qui a été fait, et puis surtout sur ce qui n'a pas été fait. Le rapport devait être présenté ce samedi 23 janvier, sur la rue de la République, plus précisément dans les locaux de 3015, une association culturelle. Mais il n'en a pas été ainsi, ou pas exactement comme prévu, puisqu'un centre-ville pour tous a trouvé porte close. On est aujourd'hui avec David, qui est donc membre d'un centre-ville pour tous, et qui va nous expliquer plus en détail ce qui s'est passé.
Ce samedi, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu avant sur l'action d'un centre-ville pour tous?
Oui, bien sûr. Un centre-ville pour tous est une association qui naît en 1999 sur la demande d'intervention d'un certain nombre d'habitants qui connaissent des difficultés plutôt dans le cadre des PRI, des périmètres de restauration immobilier, au Panier et à Belzunce. Et en fait, de 1999 à 2004, l'asso mène un certain nombre d'actions qui lui font gagner en visibilité par des habitants d'autres quartiers. Et donc, à l'été 2004, lorsque plusieurs dizaines de locataires de Marseille République reçoivent massivement une lettre de non-renouvellement de bail pour cause de travaux de rénovation imminents et d'ampleur, eh bien, plusieurs proto-collectifs ou des petits groupes d'habitants sont alertés, se constituent petit à petit, et à un moment donné, quelques-uns de ces collectifs demandent à Centre-Ville pour tous d'intervenir, dans tous les cas de donner un soutien pour mieux coordonner leur mouvement. Quoi.
D'accord. Et donc, pour en revenir à ce qui s'est passé samedi, qu'est-ce que vous souhaitiez faire dans le local de 3013? Et est-ce que tu veux rappeler rapidement ce que c'est l'association 3013?
Oui, oui.
Quels sont vos liens entre Centre-Ville pour tous et eux?
Oui, donc, si tu veux, de 2004 à 2008, un Centre-Ville pour tous se range du côté des habitants dans leur combat. Et puis, en 2008, les évictions massives, les tensions diminuent, parce que la rénovation elle-même diminue pour différentes situations, dont la crise des subprimes, qui a des conséquences sur les investissements et le rythme des opérateurs. Et donc, en gros, le conflit se met en veille de 2008 à maintenant. Centre-Ville pour tous, entre janvier et août 2015, souhaite actualiser ses données de connaissances sur le devenir de la rue pour pouvoir combler un vide de bilan, bilan qui, à ce jour, n'a pas été fait par initiative des acteurs publics.
Et quand tu dis actualiser les données de connaissances, c'est faire une enquête.
Voilà, donc faire une enquête de terrain, immeuble par immeuble, pour notamment observer l'état d'avancement de la rénovation, les taux d'occupation des logements et des commerces, Et voilà, c'est autour de ces, et éventuellement actualiser l'état de la propriété, puisque récemment, donc de 2013 à aujourd'hui, il y a eu à nouveau des transactions et des nouveaux acteurs qui arrivent, d'autres qui partent. Finalement, l'histoire immobilière de la rue se poursuit. Donc voilà, il y a tout ça qui continue, des rénovations en vue. Qui pose la question du relogement des habitants à nouveau. Et donc, si tu veux, samedi, c'est de tout ça qu'on a voulu parler avec les habitants, en leur rendant compte déjà de ce que nous, on avait pu observer pendant cette enquête. Et puis, voilà, d'essayer de mieux comprendre quelles étaient les tensions aujourd'hui pour eux.
Donc, ça, c'est ce que vous auriez dû faire, mais...
On l'a fait quand même, mais donc pas chez 3013, puisque cette association qui en fait s'est créée après la dissolution du OFF de Marseille 2013, s'est installée au 58 rue de la République par initiative de c'est une boîte d'animation commerciale qui a été qui est embauchée par ATMI et par ANF pour faire donc de l'animation dans la rue. Et donc 3013 a été invité par cette boîte à s'installer là en échange d'un loyer assez modique et dans l'objectif, selon la boîte en question, de créer un pôle culturel rue de la République, chose à laquelle eux-mêmes n'y croient pas trop. Et donc voilà, ils devaient nous accueillir samedi, sauf que la veille... ATMI notamment a exercé des pressions directes en leur disant si vous accueillez la réunion de Centre-Ville pour tous, on vous résilie le bail illico. Ils ont un bail précaire.
Peux rappeler pour les auditeurs, les auditrices, qui est ATMI
oui.
Par rapport à la rue de la République.
Bien sûr. ATMI est l'entreprise qui a racheté la moitié de ses lots à Marseille République. Marseille République étant le fonnet de Lone Star, le fonds de pension états-unien qui avait déclenché en bonne partie le conflit en 2004. Et donc ATMI aujourd'hui est presque de sortie puisqu'ils ont vendu petit à petit tout ce qui leur restait. Donc aujourd'hui, ils exercent quand même encore une forme de censure sur les artistes qu'ils ont ramenés.
Vous êtes retrouvé porte close le samedi matin. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez quand même fait une présentation dans la rue, dans un autre lieu?
On a marqué le coup juste en rappelant ce qui s'était passé. Il y avait une soixantaine d'habitants qui étaient là, plus de la presse. Et ensuite, on a eu la fortune d'être accueillis par la CIMAD, dont les locaux sont juste en face de ceux de 3013, avec la petite différence que la CIMAD est propriétaire de ces locaux et donc peut faire ce qu'ils ont ramené.
D'accord. Et donc, si je comprends bien, ATMI a fait pression sur 3013 pour que vous ne fassiez pas votre présentation du rapport.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que contient le rapport qui pourrait déranger ATMI, en fait?
Je pense que rien d'indicible, mais comme je le rappelais juste avant, il y a un silence... une sorte d'omerta sur le bilan de l'opération qui provient à la fois des aménageurs privés mais aussi des aménageurs publics. Et donc, nous, si tu veux, par ce rapport, on apporte des éléments de communication et de connaissance qui brisent très humblement le silence sur ce bilan, quoi.
Et notamment, il y a quelques points que vous citiez dans ce rapport qui sont au niveau de la réhabilitation, de la rénovation.
Oui.
Il semble que vous expliquiez qu'en fait, c'est pas fini.
Des rénovations très inabouties, beaucoup de rénovations partielles, d'assez mauvaise qualité à la petite semaine, qui donnent l'impression en fait qu'on attend, c'est des travaux en attendant la rénovation. Une rénovation qui certes a avancé du point de vue des façades, mais derrière les façades, il reste encore énormément de boulot à faire. Et donc, de ce point de vue, oui, un bilan mitigé. Après, si on regarde l'occupation des logements, on a toujours autant de vacances qu'en 2004, lorsque l'opération a commencé, c'est-à-dire un tiers de logements vacants. C'est exactement la même proportion qu'en 2004. C'est certainement pas les mêmes logements, même pas les mêmes logiques, mais dans tous les cas, toujours un tiers de logements vacants. Et sur l'occupation des commerces, c'est la catastrophe. C'est 1 sur 2 commerces qui sont vacants. Bien entendu, ça, c'est des moyennes, hein, selon où tu es dans la rue, selon qu'il s'agisse du patrimoine d'ANF, d'ATMI ou d'autres. les logiques sont différentes et les résultats sont différents. Mais dans tous les cas, si on prend l'ensemble du périmètre de l'OPA République de 2004, c'est ça les principaux constats. Donc, c'est pour ça que ça gêne en partie.
Quand on regarde la rue de la République en journée ou en soirée, la rue semble assez vide et inoccupée en fait. Et centre-ville pour tous, vous partagez ce constat-là?
Oui, bien sûr, ce constat, il revient à chaque fois, notamment auprès des habitants anciens, mais nouveaux aussi. Hein. La rue a été vidée de son âme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout l'impression que donnent les rez-de-chaussée commerciaux vides, derrière des palissades avec des faux commerces. Oui, ça interroge énormément. Donc c'est un peu ces constats, ces idées qu'on a voulu examiner un peu de plus près par notre enquête.
D'accord.
Mais bon, après nous, on a toujours dit que la notion d'échec était très relative, puisque échec pour qui ? Échec pour les investisseurs, peut-être pas, parce que mine de rien, à chaque revente, il y a eu des plus-values très intéressantes. Donc échec en termes urbains et sociaux, oui, peut-être. Échec en termes financiers, peut-être pas trop.
Ça, on va pas résumer toute l'enquête. Où est-ce qu'on peut la trouver ?
On peut la trouver sur le site d'un centre-ville pour tous. Donc il suffit de taper un centre-ville pour tous sur Google et elle est téléchargeable. Le rapport est téléchargeable directement sur dans l'accueil. L'association a déclenché une poursuite de cette enquête. Et donc la semaine prochaine, le 30 janvier, on commence une deuxième enquête, mais cette fois-ci en multipliant nos forces, puisqu'on a fait appel à des équipes d'universitaires. Et donc voilà, il y a 4 équipes d'universitaires qui se sont positionnées, qui vont participer à cette deuxième enquête qui portera beaucoup plus sur qui sont les habitants en fait, de la rue, qui habite les logements. Et donc voilà, il y aura une soixantaine d'étudiants, une quinzaine de chercheurs qui vont se déployer pendant 6 mois dans la rue.
Ben merci.
Merci à toi.
On se retrouve après ce petit extrait d'Emancipator avec nos invités de ce soir, nos invités du Café Suspendu. Donc on retrouve Agathe et Thibaut. Bonsoir.
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 Donc Agathe, si tu veux nous présenter un petit peu le projet du Café Suspendu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ?
Donc le Café Suspendu, c'est tout simple en fait. C'est le fait de pouvoir payer un café un deuxième par rapport à sa consommation. Et ce café va rester en attente et sera consommé plus tard par quelqu'un d'autre, qu'on connaît ou pas. Voilà, donc ça c'est le concept qui est très très simple. Pour juste la petite histoire, c'est une vieille tradition napolitaine. Donc c'est très ancien et ça se faisait sur les comptoirs autour du port de Naples. Voilà, c'est de là que vient le concept.
D'accord, oui. On sait qu'on a une grande tradition entre Naples et Marseille. Hein. Ça se voit aussi à la vente de pizza à la part, hein, très traditionnelle de Marseille. Et donc, le café suspendu, au final, quels sont les objectifs? Ça serait de remettre cette tradition au goût du jour. Ça vient d'où, après Naples?
Exactement. Alors, en fait, après Naples, donc en 2013, il y a eu un gros buzz médiatique sur le café suspendu, notamment avec le mouvement des indignés, en fait, qui a remis au goût du jour ce concept, cette vieille tradition. Donc il y a eu vraiment un engouement par rapport à ça, notamment via les réseaux sociaux. Donc il y a eu plein de pages Facebook qui se sont créées par ville, par région, dans tous les pays également. Donc ça, c'était vraiment le gros buzz médiatique de 2013. En 2014, nous, on a fait un constat qui est que malgré ce buzz, en fait, l'action était peu installée et elle s'était vraiment implantée de manière très isolée, pas du tout cadrée, pas organisée. Et donc, avec Fanny Havas, donc qui est la présidente de l'association, et Joël Robic, qui est vice-président, on a décidé donc justement de créer cette association pour pouvoir un peu cadrer ce concept et lui apporter les outils qui lui manquaient. Donc notamment des supports de communication, des outils commerciaux, vraiment, pour pouvoir aller démarcher les lieux. Et donc on a mis en place un système d'échange qu'on appelle le kit café suspendu, avec des petites cartes qui permettent de concrétiser vraiment l'offre et la réception du café. Et donc on a des présentoirs dans lesquels on peut déposer ces cartes-là. Et puis on a bien sûr un label, un autocollant qui est visible au niveau des vitrines. Et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal d'outils qu'on a créé pour pouvoir pérenniser l'action et faire qu'elle fonctionne réellement.
D'accord. Et pour l'instant, il y a une... Ah, on n'a plus de micro, Damien. Oui, donc du coup... Ouais, du coup, ça donne quelque chose au niveau des locaux commerciaux ou autres? La réponse est plutôt bonne ou
La réponse est bonne, en fait. Le projet est toujours bien accueilli. Après, c'est de concrètement vraiment le faire fonctionner qui est des fois un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on a réussi à avoir 20 établissements partenaires dans Marseille. Et là, on en est à une phase de déploiement national. Donc, on est pas mal sollicité par des communautés de toute la France, en fait, qui nous demandent comment ils peuvent instaurer le principe dans leur ville, comment ils peuvent nous aider, comment ils peuvent parler des cafés suspendus, de cette belle initiative. Et donc, voilà, on est vraiment sur une action où on se déploie et on forme des ambassadeurs. Nous, on appelle ça des ambassadeurs, donc des gens qui vont promouvoir le café suspendu, en parler, faire du bruit autour de l'action. Et donc, voilà, on est vraiment dans un moment où on est en plein déploiement. Donc, aujourd'hui, Marseille a servi un peu de projet pilote, parce que c'est là qu'on a commencé vraiment et qu'on a testé le concept donc avec nos propres outils. Et là, voilà, c'est phase de déploiement. Donc, l'objectif de l'association, c'est qu'il y ait des cafés suspendus partout et c'est que chacun puisse... offrir ou consommer un café qui a été offert par quelqu'un d'autre près de chez soi, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, vraiment que ça se répande et que ça devienne quelque chose de populaire.
Et par exemple, si les Marseillais veulent venir essayer, où est-ce qu'ils peuvent le faire déjà actuellement?
Donc par exemple, actuellement, vous avez le Grumpy Cakes auquel on était aujourd'hui, qui est derrière l'Opéra. On a l'Écomotive, qui est en bas des Marches Saint-Charles. On a un partenaire aussi dans les quartiers nord, qui est le Scoop, un restaurant en face de la Provence. Et en fait, vous avez toutes les adresses avec les lieux sur le site www.cafésuspendu.com.
Donc je me permets juste, c'est café-suspendu.com et j'apporte un peu de détails. Alors comment ça fonctionne réellement, puisque on dit souvent faut aller dans le café suspendu et finalement ça marche tout seul. Non, vous allez dans le café suspendu qui est justement prévu à cet effet, donc ceux que Agathe vient de citer. Et en fait, vous allez directement demander un café suspendu, vous récupérez une carte. Donc soit vous effectivement vous voulez offrir un café suspendu et vous demandez au barman qui vous donne cette carte, que vous pouvez déposer donc contre paiement d'un deuxième café dans une petite urne, soit effectivement vous voulez récupérer un café, et dans ces cas-là vous allez directement prendre un café qui est disponible ou non dans une urne, vous pouvez le gratter et dans ces cas-là consommer un café suspendu. C'est juste pour régler certains problèmes parce que les gens se demandent comment ça se passe, et effectivement on a besoin de l'expliquer plusieurs fois, et on va encore même plus loin. Le but c'est aujourd'hui de dynamiser ce mouvement et d'apporter les réseaux sociaux, notamment amener le principe de dire merci à la personne qui vous a offert un café suspendu, et même de pouvoir inviter d'autres personnes à travers les médias, notamment je prends un café suspendu, j'en offre un, pourquoi ne pas en offrir un à quelqu'un sur les médias, ou même pouvoir dire merci sur le même média à la personne qui nous l'a offert. On est en train de mettre ça en place et vous pourrez découvrir ça sur le site d'un côté, mais bientôt on espère directement dans les bars participants.
Voilà, donc c'était Thibaut qui nous a fait le site internet et qui nous aide sur toutes les parties technique de la communication qui est essentielle pour ce projet. Il faut vraiment que les gens le connaissent, sachent que ça existe, sachent que ça marche, sachent qu'on peut le faire et que ça tourne, qu'ils offrent, qu'ils consomment, c'est le but.
Et pour l'instant, le public qui a été mis au courant et est partisan de cette initiative, ça marche bien, ça a l'air de prendre
Ça marche très bien, les gens sont très réceptifs. On a un partenaire également à Aix qui est le Bistro Méjane. Donc on a installé les cafés suspendus là-bas. Et en fait, eux, ils font restauration également. Et il se trouve que ça s'est fait un peu naturellement. Ils font également des sandwichs suspendus, des plats du jour suspendus. Et ça marche très bien, voilà, avec du cadre et de la communication et de faire tourner, ça marche. Les gens sont très réceptifs.
Sachant que le café suspendu, la baguette suspendue ne s'adresse pas qu'aux gens qui ne peuvent pas se le payer. En réalité, notre but, notre action, c'est de renforcer le lien social et de faire que tout un chacun puisse s'offrir et prendre quelque chose de suspendu. Donc le but, c'est je vais dans un bar le matin, je prends mon café. Pourquoi ne pas offrir un café à quelqu'un qui soit là ou pas là, mais qui a envie juste de ne pas être isolé ou seul. Y a beaucoup de gens et beaucoup de groupes Facebook notamment qui communiquent sur la valeur de c'est pour les gens qui ne peuvent pas se le payer. Oui, on ne peut pas dire non à ça, mais aujourd'hui le but, c'est de pouvoir prouver que tout le monde peut s'offrir quelque chose, et c'est le lien de générosité et le fait de pouvoir communiquer entre les gens et renforcer le lien social qui est le plus important pour nous, et non pas justement de limiter le café suspendu à la simple idée de BA, parce que les gens font une BA et c'est bon, c'est fait. Aujourd'hui le but, c'est que ce soit pérenne et que les gens puissent se retrouver autour d'un café et justement de retrouver le lien à j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai bu un café, quelqu'un m'a offert un café, et tout cet élément là qui nous semble le point le plus important de café suspendu.
Voilà, c'est vraiment insister sur le fait que ce qu'il y a derrière, c'est la volonté de, comme il l'a dit, donc de renouer du lien social. Ça permet aussi de faire du lien avec les commerces de proximité qui des fois sont un peu aussi un peu vides selon les endroits. Donc c'est vraiment la notion de lien social et non de pauvreté telle qu'on a pu le dire et l'entendre partout. Et c'est vrai que derrière cette idée de pauvreté, il y a plus que ce qu'on avait avant, de dire c'est une personne dans la rue avec son chien qui peut des fois s'en pas très bon. Non, un pauvre, ça peut être aujourd'hui, ça peut être un étudiant qui est dans une difficulté financière, ça peut être une mère de famille, ça peut être un retraité, ça peut également être un chômeur qui a un peu des difficultés dans sa recherche, et d'être dans un café le matin avec des gens à qui il peut communiquer aussi. Voilà, c'est vraiment lever ce biais du pauvre. C'est pour tout le monde, le café suspendu.
D'accord. Et ça a été expérimenté, donc vous l'expérimentez sur Marseille. On peut le retrouver aussi ailleurs déjà pour l'instant?
Oui, donc là on a déjà 4 villes qui nous ont rejoints. Donc on rejoint vraiment le système avec le label et le système d'échange. Donc il y a Lille avec Laura, d'ailleurs on lui fait un petit coucou, qui est très très active. On a également Mantes-la-Jolie et Paris. Et enfin on a un groupe d'étudiants à Montpellier qui nous aide aussi à développer le concept là-bas localement. Et ils ont déjà un partenaire. Donc ça bouge en France, pas que à Marseille.
Voilà, donc on a Gaël et Damien qui nous font passer des petites questions en même temps. Gaël demande si on peut laisser un message à la personne à qui on offre un café. Je suppose qu'avec le système de cartes dans l'urne, c'est faisable.
Alors en fait, le nouveau système est en train d'être mis en place, donc on est en train de le tester. Aujourd'hui, on l'a testé avec des blogueurs. Le but, c'était d'avoir leurs idées au maximum. Le but, c'est à terme de pouvoir effectivement, d'un côté, prendre sa carte en photo et pouvoir dire « je t'invite sur le mur de la personne sur Facebook, par exemple, je t'invite un tel à prendre un café suspendu ». Et de l'autre côté, donc laisser un message comme ça, et de l'autre côté, à la personne qui a reçu le café, de pouvoir dire merci, si c'est un inconnu, de laisser juste les coordonnées, par exemple, son Facebook, son Twitter, et de pouvoir dire merci directement sur les réseaux. Le but derrière, c'est d'essayer de récupérer un petit peu ce flux et de montrer que tout le monde le fait, tout le monde le pratique, pour pouvoir dire « regardez, ça fonctionne et ça fonctionne pas non plus sur la base de voilà, c'est un pauvre, c'est un démuni qui le fait ».
Et voilà, donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on essaye de pousser au maximum cette idée de lien social. Donc il y a le côté qui est virtuel où on peut échanger voilà via les réseaux sociaux, etc. Et on réfléchit aussi à développer un côté physique vraiment concret. Donc pourquoi pas, on est en pleine réflexion, il y a des tests à faire aussi, mais pourquoi pas installer des happy hours du café suspendu par exemple tous les mercredis matins ou tous les lundis de 8 à 9 où les gens qui ont envie, parce que c'est vraiment ouvert, si on n'a pas envie, on n'est pas obligé, mais les gens qui ont envie peuvent se rencontrer concrètement et partager les cafés ensemble, que ce soit offreur ou consommateur, peu importe.
Et pour continuer dans la journée, parce qu'on n'a pas forcément envie de prendre un café à 22h, à quand on pourra suspendre une bière, un pastis
Donc ça, c'est la partie un peu délicate. Pour l'instant, on est un peu réfractaire à ça, parce qu'il y a des dérives, comme vous vous le doutez, qui peuvent arriver derrière. Donc pour l'instant, on est vraiment... nous, on a commencé avec le café parce que pour nous, ça avait un lien et ça avait vraiment symboliquement, c'est fort. Après, l'idée, c'est de pouvoir le faire avec tout. Alors... quid, je vous pose la question, de la bière ou du pastis suspendu, à voir.
En tout cas, j'ai déjà vu que ça se faisait sur le thé ou des choses similaires au café, en gros.
Bien sûr.
Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, je trouve que l'idée de renforcer le lien social par ces cafés suspendus, c'est une idée assez géniale. J'ai vraiment l'impression aussi que ça repose sur une idée de confiance dans l'autre, en fait, dans l'autre qu'on connaît pas. Dans
Bien
le
sûr.
Sens où la personne qui va venir demander un café qui est suspendu, qui a été payé par un autre, je crois pas qu'on va lui demander est-ce que t'es en galère, est-ce que... Il y a aussi un côté sympa
Exactement.
Là-dessus, je pense.
C'est cette image qu'on veut casser, en fait. C'est de dire, en gros, en fait, la plupart des gens qui ont pris le café suspendu aujourd'hui, qu'ils soient démunis ou pas, c'est l'idée de faire comme tout le monde. Et ce qu'il dit, que c'est derrière un café, c'est pas quelque chose qui est dans le besoin, c'est pas quelque chose qui vous permet de vivre un café, ça vous permet juste de démarrer peut-être une bonne journée. Et le fait d'être comme tout le monde fait aussi que les gens ne font plus de différence entre déjà de prendre un café par quelqu'un ou pour lui, et surtout, qui lui a offert, ça n'a plus d'importance. C'est surtout l'idée de dire, je prends et je fais comme tout le monde, et puisque je suis comme tout le monde, je peux parler à tout le monde, il n'y a plus de différence. Et ce point fort reste la pierre angulaire de notre action, parce que le but, c'est que finalement, il n'y a plus de différence entre la personne qui prend un café, la personne qui va au bar et la personne qui est dans la rue. Tout le monde peut être dans une situation précaire ou non, et tout le monde peut prendre ou offrir un café suspendu.
Et pour finir là-dessus, justement, cette idée de confiance, elle est hyper importante. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où le vivre ensemble, il est pas toujours hyper facile. Et donc, justement, on trouve que c'est vraiment important de se dire qu'on peut offrir un café à n'importe qui, à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais cette idée de partage, de mieux vivre ensemble, de penser à l'autre, et aussi de pouvoir consommer un produit qu'on n'a pas forcément payé. C'est essayer d'amener d'autres logiques aussi.
Au niveau des actions, j'en profite un peu, au niveau des actions, on est en train de déployer plusieurs nouvelles idées, c'est de mettre des choses en place. On a lancé le site web qui justement a été totalement refondu, donc c'est www.café-suspendu.com, et surtout on est en train aujourd'hui de participer au concours Aviva. Donc pour la petite histoire, c'est justement 1000 projets qui sont en train de se combattre justement pour avoir le plus de votes Facebook possible. Et nous, on se bat dans la catégorie renforcer le lien social. Donc c'est totalement dans l'idée de ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, on a mis un Bitly en place. Donc si vous voulez voter pour nous, et ça nous ferait très plaisir, et ça nous aiderait surtout à pouvoir continuer l'action, à pouvoir donner encore plus de choses. Et il faut dire qu'il y a une sacrée équipe de bénévoles derrière, et il faut qu'on continue à pouvoir avancer, parce que bien sûr, au bout d'un moment, on est limité aussi par les finances. Donc si vous voulez voter pour nous, c'est bit.ly, donc bit.ly/café suspendu. Donc voilà, votez pour nous et merci beaucoup pour ça.
Voilà, n'hésitez pas à voter. Et sinon, au niveau du lien social, vous vous impliquez aussi dans d'autres actions. Hein. Il me semble que demain, vous offrez le café aux gens qui vont venir nettoyer.
C'est ça. Donc, Green Neon City qui se passera au Parc Borély à partir de 13h30. Donc, on a des actions de terrain également, c'est-à-dire qu'on participe, on a participé à Africa Fête, à des salons, à des actions. On fait aussi la distribution de café. Vraiment, on va à la rencontre des gens. Et donc, merci de le souligner, c'est ça. Donc demain, à partir de 13h30, au Parc Borély, en partenariat avec Humans of Marseille et Zéro Impact, l'idée c'est d'offrir un café chaud aux nettoyeurs volontaires, aux citoyens concernés qui sont venus pour une bonne action.
D'accord. Eh ben, à part si vous avez un petit quelque chose à rajouter encore.
Merci beaucoup à vous tous de nous avoir donné cette belle tribune.
Dans ces cas-là, on va vous donner on va vous souhaiter une bonne soirée. Hein. On rappelle l'adresse pour pouvoir vous retrouver. C'est www.café-suspendu.com. Hein. Et puis donc, on invite tous nos auditeurs à venir vous retrouver demain au Parc Borély. Hein. N'hésitez pas à voter pour le concours. On rappelle, hein, c'est bit.ly/café-suspendu.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous sommes de retour avec les informations nationales. On va faire un petit point sur l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence, la Ligue des droits de l'homme avait demandé le 19 janvier au Conseil d'État d'annuler l'état d'urgence ou de demander au président Hollande de l'annuler. Donc cette demande a été rejetée hein, suite à un débat le 26 et 27 janvier. La loi du 20 novembre 2015 ayant été votée par le Parlement, ce ne serait pas un juge administratif de remettre en cause l'état d'urgence, mais au Conseil constitutionnel. On rappelle quand même que Valls avait particulièrement bien démarché tous les parlementaires à la veille de ce 20 novembre pour éviter que le Sénat et le Parlement, l'Assemblée, ne saisissent le Conseil constitutionnel pour vérifier justement la constitutionnalité d'une loi, qu'il est tellement inconstitutionnel qu'il faut modifier la Constitution pour qu'elle soit valable. Enfin bref, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc là-dessus, on aura un vote à l'Assemblée pour une prolongation de 3 mois après le 26 février de cet état d'urgence, le mercredi prochain, donc le mercredi 3 février. On rappelle quand même que Valls s'est dernièrement positionné pour un maintien de l'état d'urgence jusqu'à la chute de Daesh. Donc on n'en est pas sorti. Les 3 mois, ça annonce pour être vachement plus long. On peut noter par ailleurs qu'on a 5 rapporteurs spéciaux de l'ONU en matière de droits de l'homme qui ont dénoncé l'état d'urgence. Alors, il est relativement exceptionnel qu'ils s'expriment collectivement. D'habitude, on a un seul qui s'indigne contre quelque chose. Là, ils sont 5 en même temps. Donc il s'agit notamment des rapporteurs spéciaux sur la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de réunion pacifique et d'association, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroriste, le droit à la vie privée et la situation des défenseurs des droits de l'homme. C'est le domaine qu'ils occupent. Ils dénoncent par ailleurs aussi toutes les mesures antiterroristes qui ont été prises en France depuis la loi antiterroriste de novembre 2014. Donc la loi renseignement de cet été, la loi de programmation militaire de décembre 2014, etc. On peut noter qu'en parallèle, on a les premiers présidents de la Cour d'appel qui ont communiqué un texte commun le 14 janvier qui dénonce l'instauration d'un état policier de manière pérenne. Donc ça rentre avec l'entrée, la modification de la Constitution pour l'état d'urgence et aussi toutes les dispositions antiterroristes du projet de loi dit Taubira qui sera maintenant porté par Urvoas. On sait qu'il avait été rapporteur de la loi sur le renseignement et on doute qu'il mette des restrictions plus sévères que Taubira sur le dispositif policier de surveillance sans aucune régulation judiciaire qui va être mise en place. Voilà, c'était les dernières nouvelles de l'état d'urgence qui continue sur une belle pente.
Justement, à propos de l'état d'urgence, il y a eu une manifestation à Marseille aujourd'hui. Enfin, il y a eu plusieurs manifestations à Marseille. Et je crois qu'on a des reporters de guerre qui sont allés. Est-ce que vous pouvez en parler?
Ouais, bon, c'était pas la guerre. Il faisait beau, il faisait bon. C'était plutôt sympa. Mais on manifestait pas mal à Marseille là cet après-midi. Le rendez-vous était donné à 14h pour hurler contre les déversements de ce qu'on appelle les bourgs rouges qui sont déversés par l'usine d'Alteo dans le canyon de Cassidaigne au large des Calanques de Marseille. Et donc il y avait un rassemblement à la préfecture avec pas mal d'interventions des collectifs littoraux qui poussent à la mobilisation depuis longtemps. Et même certains élus qui s'étaient déplacés pour la peine, notamment José Bové, Michel Rivasi, etc. Ouais. Et donc suite à quoi, donc ce cortège relativement fourni, il y avait quand même du monde sous le soleil à Marseille aujourd'hui pour ça. Donc ensuite le cortège s'est dispersé pour se retrouver au Vieux-Port. Et pendant ce temps-là, il y avait les Kurdes qui manifestaient aussi dans le centre-ville et qui ont rejoint le cortège qui se formait sur la place Sadi Carnot au milieu de la République dont on parlait tout à l'heure. Et où il y avait le cortège qui manifestait contre l'état d'urgence, contre la déchéance de nationalité, etc., qui regroupait et qui est ensuite descendu. Kurdes et manifestants contre l'état d'urgence sont descendus au Vieux-Port et ont rejoint les manifestants contre les bourgs rouges. Et tout ce beau monde s'est réuni au Vieux-Port sous l'ombrière pour se rediriger vers la préfecture où ça s'est terminé dans le calme.
C'est ça la convergence des luttes.
C'est ça, l'état d'urgence, il n'est pas que d'un côté, il peut être d'une autre aussi.
Et en parlant d'échange de nationalité, hein, on rappelle qu'il n'est normalement pas possible d'échoir une nationalité qui a été acquise par le droit du sang ou le droit du sol, du moins en France. Donc même si ça a été relativement éludé du débat ces derniers temps, ça ne concernera que les binationaux qui ont été naturalisés français. Dans ces cas-là, pour commencer, je suggère à un binational qui a été naturalisé français dans les années 80, qui actuellement surfe sur la vague de peur déclenchée par les attentats pour se mettre en avant. Il est d'origine espagnole et on le trouvera facilement, il réside à Matignon actuellement. Il me semble derrière que, Damien, tu avais quelque chose à nous dire au sujet d'Areva avant de terminer cette émission.
Ouais, alors pour finir, j'ai trouvé ça dans Le Monde de vendredi. Il y avait un gros article là dans le supplément économie sur Areva ou sur la catastrophe d'Areva, puisque le nucléaire va manifestement nous coûter de plus en plus cher, puisque l'État est en train de voler au secours d'Areva qui subit d'énormes difficultés financières depuis quelques années. Puisque je crois que sur ces 5 dernières années, ouais c'est ça, sur les 5 dernières années, Areva a perdu plus de 8 milliards d'euros. Et donc vous avez suivi que EDF est en train de racheter toute une partie d'Areva, toute la partie qui concerne la construction et l'entretien des réacteurs nucléaires. Et donc Areva va se concentrer sur ce qu'ils appellent la filière du combustible, c'est-à-dire l'extraction de l'uranium, l'enrichissement et le traitement des déchets. Et en plus de donc ce plan de rachat d'une partie d'EDF pour sauver Areva, du rachat par EDF d'une partie d'Areva pour sauver cette entreprise, donc Areva, il y a aussi un besoin de refinancer carrément Areva. Et donc là, on va recapitaliser à hauteur de 5 milliards Areva. Et c'est essentiellement l'État qui est donc actionnaire de référence qui va se charger de ces 5 milliards. Donc en gros, la facture, c'est pour nous les gars. C'est nous qu'on va payer. Les causes de cette catastrophe financière d'Areva, alors elles sont multiples. Peut-être la plus symptomatique du système nucléaire, c'est le fiasco de l'EPR finlandais qui a donc été vendu à la base sur un devis qui était très sous-estimé parce qu'il y avait de la concurrence. Donc pour écarter les concurrents américains, Areva a sous-évalué le devis qui était à la base de 3 milliards d'euros. Et en plus, les délais étaient très courts et donc ils n'ont pas été tenus. Le problème, c'est que lors de la signature du contrat, les pénalités de retard n'étaient pas limitées dans le temps et pas plafonnées. Donc, avec un retard important, puisque le chantier n'est toujours pas terminé alors qu'il a commencé en 2005-2006 et qu'il aurait dû être terminé, donc les pénalités de retard s'accumulent pour Areva. Et ça coûte très cher, puisqu'on en est aujourd'hui aux alentours de 4,6 milliards d'euros qui sont provisionnés pour indemniser le client de ce retard. Et ça pourrait s'alourdir encore en 2015. Donc voilà, première cause, c'est donc l'EPR qu'on n'arrive pas à finir et dont le coût explose. Alors ça, c'est le cas en Finlande, mais c'est aussi le cas pour l'EPR de Flamanville en France qui n'est toujours pas fini, dont une partie doit être construite et dont le coût, je crois, a été multiplié déjà par 4 ou 5, mais il est donc toujours pas terminé et on ne sait pas exactement quand il sera terminé. Mais c'est pas la seule cause des difficultés financières d'Areva. Alors d'autres causes, par exemple, il y a le fameux projet CIGEO, qui est donc le projet qui est de creuser un trou à Bure dans la Meuse pour y enfuir tous nos déchets radioactifs les plus dangereux. Et ce projet, lui aussi, voit son coût exploser par rapport au devis, et on n'est qu'au début puisqu'on vient tout juste de commencer à forer. Je vous signale au passage que cette semaine, je crois que c'était mercredi, il y a eu un accident sur ce site Cigéo et on déplore la mort d'un ouvrier et un autre a été blessé sur ce site de futur site d'enfouissement des déchets nucléaires français. Donc voilà, le fameux argument comme quoi le nucléaire ce serait l'énergie la moins chère, c'est de plus en plus mis en doute par les faits et même par des journaux aussi sérieux que Le Monde qui sont pas connus pour être des anti-nucléaires primaires. Donc j'espère qu'on aura une réflexion un peu plus poussée sur le coût du nucléaire, le coût réel je veux dire, pas le coût prévisionnel. Le coût réel du nucléaire, c'est très 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 cher.
Voilà. Eh bien, merci Damien pour cette petite analyse de l'évolution nucléaire en France. On va donc vous souhaiter une bonne soirée ou un bon dimanche si vous nous écoutez sur la rediffusion dimanche matin. Restez à l'écoute de Radio BAM et de Radio Zinzine. On vous rappelle que vous pourrez retrouver Jonah qui a participé à notre agenda lundi soir de 19h30 à 20h30 avec son émission Double Neuf sur le rap et la littérature. Et sur ce, passez une bonne semaine. À samedi prochain.